Actu SF, les podcasts.
Bien, bonjour pour cette table ronde sur Frankenstein, intitulée Frankenstein à 200 ans, la créature des créatures, point d'interrogation. Alors, nous attendons peut-être la petite présentation, puis on aimerait bien avoir les livres aussi de nos auteurs. Donc je ne sais pas quand est-ce que la personne qui s'en occupe va arriver, mais bon, voilà, on va leur demander, puis nous on va commencer. Alors je vais commencer par présenter donc nos auteurs, et d'abord Charlotte Bousquet, voilà, qui est tout au bout. Donc Charlotte est philosophe donc de formation, hein, d'études. Elle a d'abord publié Zaina et le fils du vent en 1999. Hein, je cite quelques titres, Le défi de Zaina et Light, caméra révolution en 2002. Et la même année, elle soutient également à la Sorbonne une thèse sur les mondes imaginaires. C'est bien ça. J'ai pas retenu le titre, hein, Charlotte, parce que c'était un petit peu long. Voilà. De 2004 à 2006, elle publie la trilogie du cœur d'Amaranta, pour lequel elle obtient le prix Merlin. Elle a également collaboré à la revue Ferry par des nouvelles et des dossiers. Alors notamment, j'ai retenu sur un auteur qui actuellement est important, qui est Guy Gabriel Kay. Ah, c'est ça. Elle a également créé avec Fabien Fernandez la maison d'édition CDS Éditions, dans laquelle elle a dirigé la collection Pueblos, composée d'anthologies destinées à venir en aide aux associations humanitaires et écologiques, le thème étant choisi pour sensibiliser le public et les droits d'auteur leur étant reversés. Et enfin, aux éditions Mnemos, elle a publié 3 romans, notamment des romans donc bien sûr de fantasy, dont le deuxième, Si Terriare, a remporté le prix Elba King 2010 et le prix Imaginal 2011. Alors, dans les derniers romans parus, Charlotte, donc on a 100 de lune en 2016, et Le jour où je suis partie en 2017, et il y en a un dernier. Bah, il y en a peut-être beaucoup plus. Hein, voilà.
On a beaucoup plus. Le dernier, c'est Les Masques d'Azerkila Chara, qui est un diptyque de fantasy qui vient de sortir chez Mnemos.
D'accord. Et dont on aimerait bien avoir peut-être le livre.
Bah, qui n'est pas sur le thème, mais, oui. Mais voilà. Et sinon, voilà, j'écris de la fiction donc contemporaine, de la fiction historique et des romans graphiques.
D'accord, ben merci. J'ai pas pu tout mettre Charlotte parce que ça faisait.
Voilà. C'est
fou. Ok, Fabien Fernandez est auteur et illustrateur. Il a plusieurs publications à son actif, dont des jeux de rôle et des romans, dont L'Enfant mitrailleuse, lauréat du prix Raconte-moi l'histoire. Il a publié également Détroit, un roman noir et urbain, Dust Bowl, qui est un roman historique fantastique. Et son thème de prédilection, c'est l'humain, du pire au meilleur. Hein. Alors, comme évidemment, il va être question de monstres, je pense que Fabien aura certainement beaucoup de choses à nous dire. Et il est par ailleurs le scénariste d'Ayati, une histoire en bande dessinée dans une Inde légendaire. Fabien aime bien les cultures scandinaves, la Louisiane, le jazz. Voilà, donc quelqu'un qui a des goûts assez éclectiques et qui aura certainement beaucoup de choses à nous dire sur Frankenstein. Ensuite, Xavier Bomméjean. Alors, Xavier est un écrivain français de science-fiction, de fantastique et de policier, mais qui est également professeur de philosophie. Il est diplômé en philosophie et sciences des religions. Et peut-être bientôt en lettres, Xavier. Voilà. Il est également essayiste aux moutons électriques alors j'ai cité évidemment les plus importants, Sherlock Holmes, Hercule Poirot et Henri Dargère, auteur d'un très beau livre sur le steampunk. Il est également traduit aux USA. Il a écrit pour la jeunesse, la télévision et Radio France, enfin chez France Culture, et notamment des pièces radiophoniques, dont une sur Frankenstein, qui, je pense, colle tout à fait donc à notre propos, en 2013, qui s'appelle Frankenstein ou le Prométhée moderne. Et ses derniers romans, parus tous salués dans la presse, donc American Gothic, donc en 2013, réédité en 2014, Kafka à Paris en 2015. Et La Société des faux visages en 2017. Il y en a eu un en 2018, Xavier ? Hein ? Voilà, donc on s'est arrêté là pour effectivement pour l'actualité. Et enfin, notre jeune écrivain qui est Raphaël Emery. Alors, son premier roman, c'est Pornarina, la prostituée à la tête de cheval. Donc, en fait, Raphaël, c'est quelqu'un qui s'intéresse particulièrement à la monstruosité, parce que ce personnage, c'est quand même voilà, quelque chose. Hein, dans la vraie vie, il est assistant d'édition au Diable Vauvert et il est titulaire d'un master de lettres modernes sur Sherlock Holmes. Donc, on est complètement dans le profil. Voilà. Alors, on va vous parler de Frankenstein. Je vais juste rappeler, mais très très rapidement, pour après laisser la parole donc à nos auteurs. Donc, un des mythes modernes, en fait, les plus significatifs de notre culture, et notamment, bien sûr, des cultures, des littératures de l'imaginaire, est celui de Frankenstein, l'histoire d'un monstre créé par un savant fou à partir de l'électricité. Le roman Frankenstein ou le Prométhée moderne a rencontré un succès immédiat dès sa publication par Mary Shelley en 1818. Mais c'est à travers les adaptations cinématographiques de James Whale en 1931, puis de Terence Fisher en 1957 ou encore de Kenneth Branagh en 1994 qu'il a fini par s'installer comme un symbole collectif. L'image du monstre reste associée à l'impressionnante interprétation évidemment de Boris Karloff en 1931. Et c'est avec le cinéma que le monstre, qui est resté anonyme dans le roman, prend le nom de son créateur, le docteur Victor Frankenstein. C'est pour ça qu'on parle, vous voyez, de Frankenstein, qui est le nom du docteur, mais maintenant, c'est devenu, évidemment, la créature. Voilà, et donc, depuis...
Il
n'est
pas docteur.
Oui, enfin, Frankenstein, il est...
Il n'est pas docteur, il est renvoyé de la faculté d'Ingolstadt.
D'accord.
Avant de finir.
Mais il n'a pas passé de
non,
thèse.
Non, il est renvoyé.
Voilà, alors ça c'est merci Xavier pour cette remarque érudite. Et puis dernière chose à noter.
Tout comme il n'est pas baron avant que son père meure d'une crise cardiaque.
Ça j'ai pas dit qu'il était baron.
Non, non, mais puisqu'il y a le nom de, il y a trois erreurs. Le nom qui est attribué à la créature, docteur Frankenstein et baron, qui est issu des films en fait. Tout ça c'est.
D'accord.
Voilà.
Bon, ok. Mais on y reviendra peut-être après hein, pour des remarques plus érudites. Et donc, en fait, eh bien, 200 ans, c'est pour cela que nous sommes aujourd'hui, après la publication donc, de la première édition de Frankenstein, eh bien, nous avons vraiment, si vous voulez, un mythe moderne qui va se réécrire bon, à travers des romans, donc à travers des pièces radiophoniques, à travers donc, des séries. Et c'est devenu donc vraiment une figure de la réécriture. Et donc, c'est la raison pour laquelle je vais poser la question à nos auteurs. Chacun, donc, ils vont répondre un petit peu chacun à leur tour. Donc, la première question que je voulais vous poser, c'est vous, quel est votre rapport au roman, à la créature? C'est-à-dire, quelle place, finalement, a-t-il dans votre imaginaire d'écrivain?
Dans la mesure où, je dirais depuis ma thèse et depuis que j'ai commencé à écrire, je m'intéresse au rapport à l'autre en tant qu'autre, en tant qu'altérité. À ma première lecture déjà du roman de Mary Shelley, j'ai été interloquée par la manière dont était traitée la créature et surtout le fait qu'elle ne soit pas nommée. Elle reste une chose, hein, elle reste l'autre. Qui n'a pas de nom, qui est l'adversaire, alors même que, pour moi, c'est la personne qui interroge le plus l'humain en nous. Et je pense que, d'une certaine manière, la créature de Frankenstein, qui reçoit un nom, d'ailleurs, dans la série, que j'ai oublié le nom qu'on regarde, Penny Dreadful, qui s'appelle John dans la série et Penny Dreadful, si je me souviens bien. En fait, pour moi, c'est ce qui à la fois... Je pense à interroger mon rapport à l'autre dans tout ce que j'écris et le fait que j'ai un nombre incalculable de personnages qui tombent amoureux de créatures monstrueuses. Je pense notamment à Malatesta dans Citeriae. Le fait que, alors là je vais faire ma fangirl, parmi mes personnages préférés en tant que lectrice, il y a ton personnage de Lilliputia, ton Minotaure, qui n'est pas une créature Frankenstein, mais qui interroge l'altérité, et bien sûr le Ruben de Fabien. Pour moi, la créature de Frankenstein, c'est en fait, c'est l'humain. Et quand on regarde cette créature Non pas sous un aspect monstrueux de « oui, mon Dieu, il a des cicatrices partout », mais quelqu'un qui naît au monde, qui essaye d'être bon, qui essaye d'être altruiste, et tout ce qui se prend dans la tête, je trouve que c'est une immense tragédie. Donc je ne sais pas si ça répond à... Ouais.
Donc, donc oui, y a dans mon roman « Dust Bowl », il y a une créature qui ressemble à la créature du docteur... Enfin, du non-docteur Frankenstein. Et donc, un composé de corps divers. Et en ça, je crois qu'on va être un peu... On peut se répéter, mais c'est vraiment le monstre miroir de l'humanité et son évolution de sa quête de l'humanité au sens large. Dans mon roman, il évolue comme ça en apprenant et en se posant des questions aussi sur ce qu'est l'humanité. Et je pense que c'est un très bon support, un très bon tremplin sur ce questionnement qui reste un peu éternel, et tout en étant un monstre. Et donc du coup, au final, qui est le monstre de qui, quoi.
J'ajouterais, Charlotte, que toi-même, tu as décliné avec la marque de la bête cette humanité qui se... cache sous l'apparence bestiale de manière très jolie, et j'en sais quelque chose, voilà. Et ben, pour ma part, sur Frankenstein, j'ai écrit un roman qui s'appelle La Vénus anatomique, où j'imagine que Frédéric II de Prusse organise un concours comme il en existait au XVIIIe siècle, qui est de créer le nouvel Adam. Et pour des raisons X ou Y, ça va mal, et en fait, il décide de créer une nouvelle Ève. Donc déjà, ça m'intéressait de distinguer du coup l'homme de la femme dans la conception qu'on a de l'homme. Et dans le roman, il y a comme ça différentes femmes. Il y a le chevalier Déon qui, lors de la première partie du roman, est homme, et dans la deuxième partie, femme. Et il y avait un personnage auquel je m'étais attaché, qui est suisse, qui s'appelle Olympe de Pierrefranche. Et Pierrefranche, c'est Frankenstein, la traduction. Et donc, on peut comprendre qu'elle sera à l'origine, elle, de l'intérêt de Victor pour la science et le vivant. Et je vais juste préciser un truc, une curiosité, qui moi, j'aimerais écrire en fait là-dessus. C'est Otto Rank, le psychanalyste, qui, dans un ouvrage qui s'appelle « Don Juan et le double », dit qu'au XVIIIe siècle... à Ingolstadt, donc la ville où Victor fait ses études, mais Rank n'invente pas, il est dans l'étude. Bref, au XVIIIe siècle à Ingolstadt, il y a eu une représentation du Don Juan par des jésuites, et c'était une version où il y avait, paraît-il, sur scène un commandeur en pierre, etc., et qui donc, le commandeur en pierre, dit ce qu'il pense de Don Juan. Donc c'est littéralement ce commandeur en pierre, une pierre franche. Et d'après Otto Rank, il n'est pas possible qu'il y ait un géant en pierre, une créature en pierre, un modèle byronien type Don Juan et la ville d'Ingolstadt, et que tout ça soit une coïncidence. C'est intéressant. Donc peut-être que cette idée de création inattendue à la Villa Deodati, etc., c'est peut-être à nuancer, en fait. Ça a peut-être été très travaillé en amont, au moins par Shelley et Byron.
Oui, donc, ça marche, oui. Oui, donc pour moi, Frankenstein, je me suis rendu compte en préparant cette table ronde, je l'ai relu, ce que j'avais vu il y a 10 ans, et je me suis rendu compte que tout ce qui vient de Frankenstein, enfin, tout ce que j'aime de Frankenstein ne vient pas du roman, finalement. Et c'était vraiment tout le folklore horrifique et gothique. Et en relisant le roman, j'ai été très surpris de voir que, en fait, toute l'imagerie que j'avais, et que sûrement beaucoup de gens ont, vient des films. Et je n'ai pas du tout retrouvé dans le roman le découpage des cadavres, les soirées dans les cimetières et tout ça, le savant fou. Et donc, du coup, pour moi, tout ce qui vient de Frankenstein et tout ce que j'aime dans Frankenstein vient vraiment de la culture des films, Pretorius, le savant fou, etc. Et les orages, même l'orage, il n'y a même pas d'orage, en fait, au moment de la création du monstre. Donc j'étais assez surpris, donc ça reste un bon roman, mais le roman, je l'ai trouvé justement, en le relisant 10 ans après, très classique, très académique, avec cette longue partie de Frankenstein qui va nous raconter toute son histoire, et finalement, toute la touche horrifique et gothique qui, moi, me fascine dans Frankenstein n'est pas dans le roman. Donc voilà, c'est, je trouve ça marrant à noter.
Mais, c'est pour ça, je pense que voilà, on est aussi sur cette table ronde parce que c'est devenu un mythe quasiment, enfin un revenir absolu, mais un mythe moderne. Et du coup, le mythe moderne, c'est aussi la déclinaison par diverses réécritures. Donc en fait, peut-être que le cinéma, effectivement, dans l'imaginaire des gens, a été remplacé par le cinéma. Alors justement, pourquoi dénommer, alors c'est par rapport au sujet de la table ronde, créature des créatures. Est-ce que Frankenstein serait devenu finalement une sorte de monstre absolu qui va gommer d'autres figures de monstres qui ont évidemment existé dans la littérature auparavant. Donc voilà.
Bah, pour la créature des créatures, je ne sais pas trop quoi dire en fait. Parce que après, ce qui est là, c'est que Frankenstein représente, moi je le vois dans la création littéraire ou la création en général, on nomme Frankenstein quelque chose qui est fait de plein de choses hétéroclites. Et je pensais à Rachmaninov quand il a écrit. Le prélude de dièse mineur, et c'est un morceau de musique qu'il a commencé à détester, qui est un morceau assez monstrueux et gothique, et il l'a appelé Frankenstein parce que c'est une œuvre, c'est une espèce de créature des créatures, c'est une œuvre voilà, qu'il commence à détester et assez monstrueuse. Donc c'est en ce sens-là que je le verrai.
Ce qui est intéressant, c'est que la composition de Rachmaninov, pardon, elle a été utilisée par Fritz Leiber dans Ballet de sorcières aussi. Et c'est vrai qu'elle est, assez flippante. Pour revenir à la question, oui, je suis d'accord. Pour revenir à du basique, il y a eu longtemps Frankenstein et Dracula dans les grandes figures de l'autre. Sauf que Dracula, me semble-t-il, a largement essaimé en autre vampire, tandis que Frankenstein, non. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de monstres comme ça. Ils sont très isolés, les monstres. Il y a Quasimodo... peut-être Merrick dans le film de David Lynch, des choses comme ça. Mais alors que ce qui est curieux, c'est que dans le roman Frankenstein, la créature veut fonder une colonie, justement. Son rêve, c'est, en Amérique du Sud, je crois, d'avoir une descendance. Il me semble qu'elle n'en a pas.
Bon, je ne sais pas pour la descendance ou pas, mais je pense qu'il y a aussi sur le côté mythe moderne, créature des créatures, dans Frankenstein, c'est cette électricité qui donne vie à la créature. Et aussi, on a une époque où l'électricité prend une importance considérable. Et je pense qu'il y a une métaphore et que c'est une créature qui est créée et qui n'est pas... là, ce sera au sens large, on va sortir du contexte historique, mais quand on est aux imaginales, les créatures créées, c'est souvent par magie, c'est des malédictions, et ce genre de choses. Là, elle est créée de manière scientifique et par cette science qui est cette science de l'électricité qui est nouvelle et qui lui donne plus qu'une vie simple comme un golem. Qui va juste se mouvoir ou répondre à des ordres. Non, là, elle va avoir cette étincelle justement d'humanité. Et je pense que c'est peut-être que pour ça que ça serait éventuellement cette créature des créatures, parce qu'elle est vraiment différente des autres.
Alors, je vais continuer sur mon obsession de début de table ronde. En fait, je crois qu'effectivement, on peut dire que la créature de Frankenstein est la créature dans la créature, dans la mesure toujours où elle n'a pas de nom. Alors il y a le côté chose, mais quand on regarde notre société actuelle, histoire de faire des parallèles, on vit dans une société où l'être humain est totalement déshumanisé, où on va vous virer, quand on licencie des gens, on parle d'un dégraissage. On est peu à peu, je dirais, réduit à des golems de chair, sans nom, de toute façon, on est des numéros. Et il me semble que dans ce côté-là, effectivement, ça pourrait être intéressant de réfléchir là-dessus.
Et puis peut-être que ça fait écho aussi à un autre mythe qui est nettement plus ancien, c'est celui d'Osiris. Bon, il lui manque une petite partie quand on le recompose, mais en l'occurrence, ça reste aussi presque cette première créature de Frankenstein, si on fait un parallèle.
ou même du premier homme, puisque Adam, en fait, Adam, Adama, c'est l'argile, et il a été composé de parties prises au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, pour qu'il soit partout chez lui. Donc en fait, même le premier humain est un assemblage, en fait.
Marie Shelley, qui donc qui était d'abord c'était une femme auteure au 19e siècle, c'était pas très très facile, surtout au début du 19e siècle, qui a eu envie justement de créer ce monstre. Moi, j'avais envie de vous poser la question pour s'écarter un tout petit peu de Frankenstein, mais est-ce que dans voilà dans vos œuvres, est-ce que vous avez eu ce que j'appellerais la tentation du monstre, c'est-à-dire est-ce que vous avez eu à un moment donné envie peut-être de réfléchir à la notion de mal, à la notion d'humanité, à la notion d'artificialité ou toute autre chose. Et est-ce que vous avez eu envie de créer un monstre, monstre absolu, ou peut-être de réécrire justement sur une figure de monstre? Je pensais, Xavier, bien sûr, à John Merrick. Voilà, et Raphaël qui crée cette espèce de monstre de prostituée à tête de cheval. Moi, j'aimerais avoir votre avis d'écrivain là-dessus.
Oui, bah, la base de mon roman, c'était vraiment de créer un monstre, et je suis parti des modèles de Dracula, de Frankenstein et les deux grands monstres. Et ce que j'ai voulu faire pour que ce soit plus contemporain, j'ai voulu rajouter une dimension sexuelle très forte, parce qu'elle est chez Dracula, mais elle est sous-jacente, alors que moi, avec la figure de prostituée à tête de cheval, il n'y a pas de doute quant à sa nature monstrueuse. Et vraiment, l'ambition du roman, donc, c'est vraiment de créer ce monstre, et au tout début, je me souviens, ce qui m'a vraiment inspiré le monstre, c'est un mot de China Mieville qui parlait des créatures hybrides et la façon dont il créait des mondes très facilement, en prenant deux éléments différents, on les mélange ensemble et ça fait un monstre. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai pris une prostituée, une tête de cheval, et j'ai créé mon monstre de cette façon. Voilà, donc c'était vraiment l'ambition première du roman, d'arriver à créer un monstre un peu nouveau. Et voilà.
Bah moi, carrément, tout mon travail, c'est sur tout, absolument tout, la monstruosité, c'est ça qui m'intéresse, qu'elle soit plus ou moins manifeste, qu'elle soit interprétée de telle ou telle façon, c'est mon travail. Par contre, l'un des plus beaux monstres littéraires que j'ai rencontré, c'est Mandragore d'Anne Seward, qui est très jolie. C'est une très jolie jeune fille de 15 ans. Et il y a un chapitre, c'est le cinquième, qui s'appelle Mandragore et le chauffeur, qui est absolument génial. Parce que Mandragore est obtenu à partir de sperme de pendu et d'une prostituée. Donc c'est une espèce de science alchimie qui parvient à ça. Et elle était conditionnée pour séduire les hommes. Et donc il y a cette espèce de poupée, elle est absolument jolie. Et on dit au chauffeur qui est une brute, ne l'écoute pas. Il ne faut pas que tu la regardes dans le rétroviseur, tu ne dois pas l'écouter. Lui, c'est une brute, donc ils ont pris une brute pour la conduire là où elle doit aller. Donc elle monte dans la voiture, et à la fin du chapitre, la voiture s'écrase contre un mur et Mandragore sort. On ne sait pas ce qu'elle lui a dit, c'est magnifique.
Comme c'était dit un peu en introduction, moi ce qui m'intéresse c'est l'humanité. Donc du pire au meilleur. C'est aussi pour ça que j'aime les romans noirs, parce qu'on creuse vraiment au très fond de l'âme. Et donc, pour plus coller à la table ronde, je parlerai peut-être de Dust Bowl, où il y a une créature composée de corps dits parfaits. C'est-à-dire que le monstre va avoir, par exemple, un bras d'un soldat de la Première Guerre mondiale, une jambe de coureur de fond. Et en fait, ils ont essayé vraiment de composer cette créature. C'est des alchimistes. Et donc, ils ont tout relié. Il y a le fonctionnement intérieur qui devrait fonctionner. La machine est prête. Sauf qu'évidemment, ça ne marche pas. Donc, du coup, le prototype est abandonné. Et le héros de l'histoire, quand il va entrer en lien avec la créature, leur simple contact va faire en sorte que la créature prenne vie. Et à partir de là, ça ne va pas créer le monstre que les alchimistes souhaitaient, mais du coup, on se rapproche de la créature de Frankenstein, mais une personne qui va observer comment fonctionne l'humanité en regardant des enfants. Par exemple, il y a une scène où il regarde des enfants jouer à la guerre. Il se demande pourquoi on laisse des enfants jouer à la guerre. Et ce genre de choses, et se composer comme ça... petit à petit, en prenant des bribes d'humanité à droite à gauche, en essayant surtout de garder le meilleur, ce qui est évidemment très complexe pour lui. Et à partir de là, je pense que moi, je suis pleinement sur le sujet de cette quête d'humanité de Frankenstein et de la création du monstre, mais du monstre juste en apparence, parce qu'il va aussi visiter un show de freaks qui vont le prendre pour un débile profond. Et du coup, c'est toujours là, on se renvoie la balle de qui est le monstre de qui, et ainsi de suite, quoi.
Moi, je voudrais juste rebondir sur ce que vous disiez sur Merrick, donc dans le roman Xavier. Ce n'est pas, pour moi, n'est pas un monstre. C'est le personnage le plus humain du roman. Et c'est un personnage absolument bouleversant. Donc, de mon côté, le monstre, j'ai envie de dire qu'on ne naît pas monstre, on le devient. J'ai écrit une nouvelle dans une anthologie qui s'appelle l'Anthologie du monstre, hein, qui a destination de 9-12 ans. Une nouvelle qui s'appelle Peau de zombie. Et où là, on a vraiment c'est l'histoire d'une adolescente qui a des problèmes de peau et qui est donc appelée peau de grenouille, peau de zombie, et qui peu à peu va se métamorphoser en monstre. Et en monstre, alors pas physique, c'est pas si important que ça, mais en monstre moral, parce que c'est exactement ce que ses camarades attendent d'elle. Et c'est vraiment une métamorphose inhumaine, j'ai envie de dire. Donc peut-être que c'est j'ai envie de dire le seul monstre réel que j'ai créé qui devient en tout cas vraiment monstrueux, c'est ça. C'est cette fille qui se dépouille qu'on dépouille de son humanité physiquement et mentalement.
Effectivement, il faut peut-être préciser deux choses, parce que là, en discutant dans toutes les tables rondes avec des auteurs extrêmement divers, on a pu voir en fait que soit la littérature ou le cinéma, mais surtout la littérature, crée des monstres qui sont vraiment représentatifs du mal. Donc, c'est-à-dire qui allie, par exemple, une laideur, je dirais, physique à une laideur morale. Et puis, il y a, et je pense que Frankenstein fait partie, effectivement, de cette famille de monstres, et évidemment John Merrick aussi, dans le sens où, il y a la laideur physique, mais il y a une conscience morale derrière, il y a un appétit d'humanité, hein, puisque ça, je pense que ça, on peut le retrouver chez Frankenstein. Et puis, chez John Merrick, il y a, évidemment, je pense, une humanité totalement sublimée par son physique très, très difficile, par sa maladie, etc. Voilà, donc je pense que la figure du monstre est vraiment un élément très plastique dont on peut effectivement se servir et jouer à l'infini. Alors pour revenir à Frankenstein, qui est donc un monstre, né dans le contexte du roman gothique, pour le public, parce que ça c'est souvent un petit peu compliqué, est-ce que pour vous il appartient plutôt à la science-fiction ou plutôt au fantastique? Moi j'ai une réponse, mais j'aimerais bien avoir votre avis quand même par rapport à toutes les représentations. Et est-ce que Frankenstein, on dit souvent que c'est le premier roman finalement de science-fiction, ce qui n'est évidemment pas faux, mais voilà, toute l'ambiance, est-ce que ça ne crée pas finalement, ça ne le fait pas entrer dans une dimension fantastique?
Spontanément, avant de relire le roman, j'aurais dit que c'était vraiment du fantastique pur et dur. Et j'ai racheté une édition Folio SF qui disait que c'était le premier roman de SF. Ça m'a un peu surpris, mais c'est vrai qu'en le relisant, la dimension SF ressort beaucoup plus. Et on peut dire que c'est du fantastique à travers les films, etc. Mais dans le livre, c'est vrai que ça a vraiment trait à la science-fiction. Donc ça dépend. Voilà. Après, moi, je préfère vraiment l'aspect fantastique, horrifique, gothique, etc. du mythe. Mais... on peut dire aussi que c'est du fantastique. Il n'y a pas vraiment de film qui rendrait une version science-fictionnelle très forte. Vraiment, tous les films ont vraiment accentué sur l'horrifique, le gothique. Donc aussi, dans ce sens-là, on peut dire que c'est quand même une œuvre gothique. Voilà. Mais bon, ça reste à trancher.
Je suis d'accord avec Raphaël. Pour moi, c'est un roman de science-fiction. On l'imagine littéralement plus en la dimension gothique. Le film de James Whale a fait énormément, mais un peu, tu as travaillé sur Sherlock Holmes, c'est pareil. Hein. Sherlock Holmes a aussi beaucoup à ses représentations, Tarzan, c'est pareil. Donc je pense que le Frankenstein, c'est une espèce de synthèse de tout ça. Frankenstein, c'est un peu comme Batman. Batman, il apparaît en 1938. Donc, si, mettons, il a 21 ans, qui serait la majorité en 1938, il est né en 1718, à la louche. Maintenant, Batman, il est confronté à la nanotechnologie, au terrorisme islamiste, etc. Ça ne pose strictement aucun problème. C'est-à-dire que chacun de nous va fusionner parfois une seule case de Batman, indépendamment de l'histoire. Peut-être un épisode qui a été écrit en 1953, peut-être le Dark Knight de Miller qui se passe dans un futur indéterminé. Tout ça fait une synthèse qui est le Batman de chacun. Et je pense que Frankenstein, c'est pareil. Par exemple, on évoquait le Frankenstein de Branagh, il a de réelles qualités, mais il a des réelles qualités parce que Branagh, c'est un filou, et il s'est dit, je vais pas faire mon film, je vais faire l'anti-James Whale. Par exemple, la créature plusieurs fois incarnée par De Niro, il s'est dit, ouais, bon, alors voilà comment était Boris Karloff. Il a dit, ça c'est maquilleur, vous me faites autre chose, quoi. Alors, ce serait bien de mettre un fragment de peau noire. Ouais, très bien, ça, on va le faire, etc. On voit vraiment que même le film de Branagh n'est pas un film fidèle au roman comme il a été vendu. C'est un anti-James Whale, en fait. Donc, il se détermine encore par rapport à ça.
Pas plus de réponses que vous. Enfin, voilà, c'est de la science-fiction, science-fantastique. Non, j'avais juste envie de faire un truc un peu plus light et de dire qu'il y a quand même un film, une comédie musicale de science-fiction qui est absolument culte, qui parle de la créature de Frankenstein. Bah oui, The Rocky Horror Picture Show. Et on devrait même finir la table ronde en faisant The Time Warp, quoi. Parce que là, on a vraiment une interprétation qui est drôle, qui est absurde et qui est de la SF. Voilà.
Je pense que pour établir une définition, il faut peut-être se remettre aussi dans le contexte. Peut-être que pour l'époque, c'était de la science-fiction. Comme nous, au XXe siècle, on parle de vaisseaux spatiaux et c'est de la science-fiction. Après, ce qu'il en ressort, comme vous disiez, c'est surtout qu'on a été alimenté de beaucoup de films, de séries télé et autres sur le sujet. Et ça devient un imaginaire collectif. Et du coup, ça crée cette définition qui va être gothique, fantastique. Et peut-être qu'à partir de là, c'est des histoires de point de vue. Et savoir, comme pour Batman, est-ce que c'est le héros des années 30 qui est là pour faire la justice ? Est-ce que c'est la série où il y a pif, paf, poum quand il donne des coups de poing ? Ou est-ce que c'est la version où il devient complètement facho parce que l'ordre et la loi doivent régner avant tout ? Donc Ça dépend de quel côté du prisme on se met, peut-être.
Voilà, donc nous avons bien dit que c'était un mythe moderne parce que en fait il est né au 19e siècle, comme nous l'avons dit tout à l'heure pour la figure évidemment de Dracula, hein, qui est passé aussi donc par le cinéma, qui a suivi ces deux mythes modernes qui ont suivi des transformations à peu près similaires. Et moi, j'avais envie de vous demander pourquoi justement l'être artificiel de Victor Frankenstein perdure-t-il dans le temps ? Pourquoi est-ce qu'il résonne encore dans notre époque contemporaine ? C'est-à-dire, bon, bien sûr, on a dit que c'était de la science-fiction, etc., mais bon, ça reste quand même une créature assez, on va dire, assez primitive, dans le sens où, voilà, on a des morceaux de cadavres qui sont assemblés et puis l'électricité qui passe devant. Enfin, il n'y a pas une technologie extraordinaire, évidemment, dans cette création. Mais pourquoi est-ce que ce mythe moderne résonne encore, je dirais, à l'époque actuelle, à l'heure de la robotique, de l'homme augmenté ? Voilà, est-ce que c'est un symbole de l'artificialité ou est-ce qu'il y a d'autres... Voilà, d'autres sens, et vous voyez d'autres images, peut-être des images parodiques, je ne sais pas, il y a peut-être un sens un peu différent à ce qu'on va trouver dans les séries, dans la comédie musicale, etc. Pourquoi finalement en faire une comédie musicale d'ailleurs ?
Je crois que je vais passer parce que je ne vois pas du tout, hein. Je n'aurai pas les éléments pour dire pourquoi ça a perduré, mais donc, David, tu as peut-être plus d'idées que moi.
Bah, je ne sais pas du tout pourquoi ça a perduré, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est d'actualité. Par exemple, il y avait une série télé qui s'appelait Orphan Black, qui est sur le transhumain, le post-humain, etc. Et les deux œuvres, alors que c'est dans un contexte extrêmement ultra-contemporain, le pitch en deux mots, c'est une jeune femme qui se voit se suicider. En fait, elle voit sur un quai de métro son double parfait qui se suicide. Donc à partir de là, elle va enquêter, elle va se rendre compte qu'elles sont comme ça des sœurs, c'est comme ça qu'elles vont finir par s'appeler entre elles, disséminées ici. Là, ce sont des clones. Et ben, les deux œuvres qui sont évoquées sont L'île du docteur Moreau de Wells et Frankenstein. Donc il faudrait penser, enfin on peut imaginer que quel que soit l'emballage du roman de Mary Shelley, il répond tout de suite à des choses qui perdurent, quoi, du point de vue scientifique, éthique. Ouais, on a des problèmes de micro. Et donc je disais que, en fait, indépendamment du contexte, comme il était évoqué, et de l'habillage qui doit à son temps, Frankenstein, le roman, répond peut-être d'entrée à des questionnements éthiques et scientifiques qui demeurent, eux, intacts. Bon.
Moi, je pense qu'on peut prendre un autre exemple qui est assez contemporain. Je veux dire, on prend le T-800, Terminator. C'est l'avènement des machines, c'est ce qui fait peur à l'homme. C'est qu'est-ce qui va remplacer l'homme ? Est-ce que, du coup, la créature de Frankenstein était le nouvel Adam, l'homme qui est du coup moderne, qui remplace l'ancienne version, et à partir de là le questionnement perdurera toujours. À l'heure actuelle on développe des intelligences artificielles et forcément ça pose la question de, même sans aller à un niveau très philosophique, est-ce que cette machine va me remplacer dans mon boulot, est-ce qu'il y aura toujours besoin d'un homme derrière la machine? Et du coup, on revient sur le Terminator. Est-ce que les machines vont remplacer l'homme parce que l'homme est pourri et puis, on glisse sur un sujet peut-être, je ne sais pas, écologique. L'homme pourrit la planète. Les machines ont décidé qu'il fallait sauver la planète. Et ben, du coup, on éradique l'homme. Enfin, ouais, on peut broder très très loin comme ça.
Je rebondirais direct du coup sur les questions de l'intelligence artificielle et de clonage. Et pour moi, ça continue inlassablement à interroger l'homme sur ses responsabilités envers l'autre. Il y a énormément de séries, de films qui évoquent ça. Et en fait, c'est pas Terminator, c'est Alien, mais dans le dernier Alien. Le personnage principal, dont j'ai oublié le nom, a comme allié une cyborg. Et toute la question qui est derrière, c'est vraiment sur le fait de la considérer comme humaine ou non. Et pour moi, la question de la créature de Frankenstein, c'est vraiment ça. À partir du moment où on crée l'autre, eh ben, on est responsable. Si je bondis sur un autre mythe beaucoup plus moderne qui est en fait tout simplement Star Wars, les clones de Star Wars et la guerre des clones, c'est bien parce qu'à un moment donné en fait des êtres qui sont clonés, créés juste pour se battre, ont en fait une conscience humaine avec des désirs, avec des peurs et sont des singularités, des individus. Pour moi, le rapport vraiment à l'humain, à l'autre, est ce qui est le plus, peut-être le plus intemporel.
Bon, je suis désolée, nous n'avons qu'un micro finalement qui fonctionne bien. Hein, voilà. Alors justement, Charlotte, je vais rebondir sur votre question, puisque vous parliez d'intemporalité, et moi je voudrais, pas terminer, mais enfin, penser justement Frankenstein comme un symbole universel. Est-ce que vous pensez que c'est un personnage qui est né dans la littérature occidentale, mais est-ce que finalement c'est un personnage qui peut parler à l'ensemble des populations de la planète? Est-ce que, je ne sais pas, est-ce que, par exemple, c'est un dans d'autres civilisations, c'est un personnage qui peut avoir un retentissement également? Et puis, je crois, voilà, on avait parlé tout à l'heure de robotique, voilà, d'homme augmenté, mais en fait, c'est Frankenstein, pour moi, c'est plus que le robot, ce serait un androïde. Donc, on retrouverait peut-être la filiation de l'être artificiel. Vous voyez, par exemple, dans Blade Runner, mais dans Alien, on va retrouver, puisqu'à chaque fois, il y a, bien sûr, des êtres artificiels. Donc, peut-être que Frankenstein, c'est aussi... au-delà, voilà, du symbole des dangers de la machine, interroge aussi l'homme sur pourquoi finalement je chercherai à créer une créature artificielle qui me ressemble. ou qui ne me ressemble pas, ou qui va me remplacer. Enfin, l'idée, c'est pourquoi créer finalement une créature artificielle, voyez. Et ça, c'est, ça me semble être un questionnement peut-être universel qui va toucher de nombreuses civilisations.
Bah, je pense que ce qu'on n'a pas abordé là pour l'importance de Frankenstein, c'est la lutte contre la mort aussi, je pense. C'est vachement présent dans le roman. Le personnage principal a perdu son père, non, je ne dis pas de bêtises, sa mère, pardon. Et voilà, c'est traversé par la mort. Et même à l'origine du roman, je pense que Marie Shelley aussi a eu une vie assez, assez macabre, a eu beaucoup de pertes et tout ça. Donc je pense que c'est vraiment ce qui fait l'université de Frankenstein aussi, c'est le rapport à la mort et lutter contre la mort. Voilà. Et c'est pour ça que ça revient régulièrement, je pense.
Ah bah c'est très vrai, tout part de toute façon de la mort de la mère de Victor. Au début, il veut faire des études de philosophie. Et puis sa mère meurt et il veut la soigner. Alors, pour répondre à la question du remplacement, une petite anecdote, j'ai adapté Frankenstein pour France Culture en une heure. Il fallait que ça tienne en une heure, donc c'était difficile. À ce sujet, je fais une parenthèse dans la parenthèse. Marie Shelley, c'est une autrice de génie, mais c'est son premier roman et il y a des erreurs énormes, des erreurs de narration. Par exemple, tout le voyage en Angleterre, on n'en a absolument rien à faire. D'ailleurs, ça n'a jamais été repris. L'amie, la servante des Frankenstein qui a été éduquée avec Elisabeth Lavanza, la fiancée de Victor, elle est exécutée à un moment. Et Victor, il va faire celle qu'on appellera la fiancée de Frankenstein dans les films. Il le fait avec d'autres cadavres de femmes. Non, Marie, tu as un cadavre de jeune femme que tu viens de tuer, tu reprends le cadavre. Donc on voit que c'est un premier roman. C'est étonnant, hein. On voit que c'est un pur génie, évidemment, mais c'est un premier roman. Et alors, par contre, là où le génie est déjà là, et c'est magnifique, on s'en rend compte en travaillant, mais de la dentelle, quoi, comme on travaille un texte. J'étais en train de travailler ça, il fallait réduire. Et en fait, on peut remplacer, parce que dans le roman, la créature, elle parle de manière très déliée, raisonnable. On peut absolument remplacer quantité de phrases dites par la créature par Victor ou de phrases dites par Victor par la créature. C'est remarquable. C'est-à-dire qu'ils disent la même chose à des moments ou à un autre, ce qui fait que effectivement c'est le fils, la créature est le fils de Victor ou la dent de Dieu Victor. C'est remarquable, hein.
Moi, je pense que ça nous amène aussi sur le terrain du démiurge. On enfante une créature, on crée une créature, mais on crée un nouvel humain et donc on se prend pour Dieu. Donc je pense qu'il y a cette thématique-là qui est aussi très importante. Et on rebondit en effet sur la technologie, les androïdes et le fait de vouloir créer à tout prix la créature parfaite, pour une raison ou pour une autre. Dans le cliché, ça pourrait être pour se prendre pour Dieu véritablement, c'est-à-dire avoir plein pouvoir. Ça peut être aussi rejoindre le sujet, comme tu disais, c'est-à-dire combattre la mort, mais c'est-à-dire vraiment la combattre, l'entité mort, la défier en personne, pour dire que tu ne mourras pas. Et c'est vrai qu'au XIXe siècle, la mort frappait beaucoup plus souvent que de nos jours, donc c'est un peu leur lot quotidien, et c'est peut-être d'ailleurs pour ça que les romantiques et les gothiques en parlent beaucoup, quoi. Donc peut-être que c'est une piste, en tout cas.
La question, c'était... Parce que entre deux, je vous ai écouté et... Il fait chaud. Donc, sur les... En fait, non, j'avais envie d'être beaucoup plus terre-à-terre. Une des raisons pour qui pourrait... c'est quoi faire la créature reste moderne, mercantile. En fait, je m'intéresse depuis quelques mois, parce que j'ai une copine qui s'intéresse à ça, au clonage. Aujourd'hui, on est largement capable de cloner un cheval. Alors, on clone un cheval, non pas parce que, oh mon Dieu, j'aime mon cheval, il est mort, non, on clone un cheval parce que c'est un cheval qui remporte des grands prix et que ça permet de pouvoir le revendre très cher. Qui dit clonage de cheval, je pense qu'on peut tout à fait commencer à envisager de pouvoir cloner un être humain. On clone des parties d'êtres humains. Donc ça veut dire qu'on peut les vendre. Si on peut les vendre en étant beaucoup plus basique, on fait du trafic d'organes. Je pense qu'il y a quelque chose qui est vraiment de l'ordre à la fois effectivement ce que tu disais tout à l'heure du démiurge, mais aussi du bassement mercantile et du fait que le corps finalement reste considéré comme une matière première. Et alors, bon, je suis désolée, ça plombe un peu, mais voilà, c'est un côté extrêmement... voilà, c'est vraiment... voilà, on a une non-considération pour le corps humain, pour l'humain et pour le vivant à l'heure actuelle qui est vraiment totalement alarmante et qui est faite voilà, sans aucune éthique, avec des considérations mercantiles. Voilà.
Je suis tout à fait d'accord avec Charlotte, parce que même dans le roman de Mary Shelley, donc dès la source, il en a rien à faire de sa créature. C'est une espèce de prototype pour voir s'il peut vaincre la mort et plus tard sauver tous les gens qui sont sauvables. Donc déjà, on peut imaginer que Victor va créer son laboratoire pharmaceutique, etc. La créature n'est jamais une finalité pour Victor, il n'a rien à faire. Hein. C'est juste pour, comme sa mère est morte, ce serait bien de sauver les gens qu'on aime. Un peu puéril, hein, Victor, quand même aussi.
Juste hier, nous avons eu donc une conférence sur les zombies, et on réfléchissait. Alors évidemment, les zombies, c'est une... Voilà, c'est une littérature et puis, je veux dire, un domaine cinématographique qui est beaucoup plus basique, bien sûr, que Frankenstein. Mais quand même, on réfléchissait un petit peu à pourquoi ce thème-là avait autant d'importance. Parce qu'en fait, le zombie, c'est la coquille vide, c'est-à-dire celui qui revient de la mort, mais qui n'en a rien à nous dire. Et je pense que, Raphaël, ce que tu disais à propos de la mort, c'est tout à fait intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, peut-être qu'on cherche à reproduire une créature avec des cadavres, tout simplement parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a après la mort. Et que quelque part, on espère peut-être justement qu'une créature qui vient de la mort, qui a été ressuscitée en quelque sorte, comme le sont les zombies, eh bien, pourrait nous dire quelque chose sur la mort. Mais en réalité, il n'en est jamais rien, puisque Frankenstein est une créature à part entière qui naît avec une conscience et qui ne sait rien évidemment de la mort, et les zombies n'ont plus de conscience. Donc on reste toujours en fait avec ce mystère, et peut-être que c'est aussi une idée à creuser par rapport à cette représentation. Voilà. Et puis la dernière question, parce que je vois qu'on s'achemine sur la fin, et puis si on veut peut-être donner la parole un petit peu à notre public, quelle est finalement votre version, la version que vous préférez de Frankenstein, aussi bien au cinéma, peut-être dans les séries, peut-être dans les comédies musicales? Qu'est-ce qui vous plaît le plus en fait?
Moi, ça serait le film de 1957 de, je ne sais plus le réalisateur, Frankenstein s'est échappé. C'est celle où j'aime le plus la représentation du laboratoire qui bouillonne de partout avec l'électricité. Je pense que ça a été bien rendu ici. Bon, après, je n'ai pas tout vu, j'en ai vu beaucoup, mais il y en a plus de 80. Mais j'aime beaucoup cette version-là. Et ce que je voudrais ajouter pour finir, c'est un petit mot sur Mary Shelley qui me fascine beaucoup aussi. Pour moi, c'est une auteure un peu que je mets au panthéon avec Borrow ou Lovecraft. C'est-à-dire que c'est des auteurs qui, eux aussi, avaient une vie passionnante. Elle a une vie un peu intéressante à explorer aussi, traversée par la mort de ses enfants aussi, etc. Et donc voilà. Et d'ailleurs, il y a un film en 2018 qui va sortir en août qui raconte sa vie. Voilà.
Merci.
Voilà.
Mon Frankenstein préféré, c'est le film de James Whale. Et on ignore souvent que James Whale a fait la Première Guerre mondiale. Et il était officier, capitaine, et donc le réalisateur. Hein. Il était dans une tranchée et il y a eu un tir allemand sur toute la tranchée. Donc toute la tranchée s'est relevée et est retombée. Et James Whale était vivant sous un empilement de cadavres de tous ses hommes. Et on sait, enfin il en parlait, sa grande amie c'était Greta Garbo, il en parlait à Greta Garbo, etc. Et on peut se demander si on ne le retrouve pas ça dans sa version.
Moi, ce que je préfère, c'est un jeu de rôle en l'occurrence. C'est Promethean the Created. J'ai pas le bon accent, je suis désolé. C'est un jeu de rôle dans lequel on interprète des personnages qui sont soit des créatures de Frankenstein, soit des assimilés Osiris, Galatéens, enfin ce genre de choses. On est des créatures créées avec son créateur. Déjà, il y a un lien assez malsain avec le créateur qui est à interpréter en partie. Et ce qui, pour moi, m'intéresse, c'est que du coup, on devient cette créature, on interprète cette créature, et qu'à chaque étape du jeu, on a des balises à aller chercher quelque part sur l'humanité. Et on cumule ces sortes de balises, on acquiert une certaine humanité jusqu'à un mythe dans cet univers-là qui serait de devenir entièrement humain. Et au moment où on devient entièrement humain, on ne sait pas si on devient un surhomme ou si on devient juste un humain en perdant tous ses pouvoirs. Et je trouve que ça fait une belle présentation de la créature.
J'ai aussi là entre The Rocky Horror Picture Show, que j'adore vraiment, et tout simplement Penny Dreadful, qui est une vaste réflexion aussi sur les monstres. On a une créature donc qui se baptise, et je trouve que c'est très très important, John. Et donc je vais rester là-dessus, sur les deux, vraiment deux versions très très différentes.
Nous avons quelques minutes pour poser des questions. Par contre, soit vous parlez fort, soit vous avancez avec le micro, parce qu'on n'a qu'un seul micro. Donc voilà. Oui, Georges. Ben, on en a un petit peu parlé, si. Oui, en fait, de toute façon, on ne parlait pas. Voilà, ce n'était pas une question, c'était une remarque, Georges, d'accord. Merci. Ok. Ok. Oui. Mademoiselle. Oui. Oh, ça, c'est une question.
C'est très joli comme remarque. Dans le roman, c'est montré, en fait. Quand les créatures s'échappent du laboratoire, elles entendent des oiseaux, les créatures, là, elles entendent des oiseaux, etc. Et toutes ces perceptions réveillent sa mémoire et elle court et elle entend, elle se dit « Ah, c'est un oiseau », etc. Elle arrive dans un village, elle dit « C'est vraiment magnifique ». Elle dit c'est que oui, des maisons, les hommes vivent dans des maisons, etc. Et quand elle arrive dans le village, on la voit et elle devient monstre. C'est-à-dire qu'il y a un cri et voilà.
Clairement, la différence existe, puisqu'on est dans des mythes très très différents. Mais pour rebondir sur ce que tu dis ou ce qu'a dit Charlotte, c'est-à-dire que, pour reprendre l'exemple de mon jeu de rôle, là, en fait, le personnage qu'on interprète ne peut pas se fixer géographiquement quelque part, parce qu'il dégage une sorte de magie qui ronge et physiquement ce qui l'entoure, comme des radiations, et aussi l'esprit des humains qui vont le rejeter. Donc on rejoint ça, c'est-à-dire que je pense que on est créature jusqu'au moment où on est défini comme monstre par les autres.
Et après, je dirais, si on s'en tient vraiment au roman classique et pas à tout ce qui a été écrit ou filmé derrière, la créature de Frankenstein est en quête d'humanité, et Dracula, malgré tout l'amour que j'ai pour lui, c'est quand même un type qui est assoiffé de pouvoir et de sang. Non, c'est pas... Ouais, bon. Après, ce qui peut faire qu'ils se rejoignent, c'est que dans le roman de Mary Shelley, la créature n'a pas de nom. Et dans le roman de Bram Stoker, Dracula ne parle pas. Il a la parole une fois et c'est rapporté par Harker. C'est bien ça, hein. Mais jamais, jamais on lui laisse la parole. Et donc c'est peut-être en ça qu'on peut les rapprocher. Après, voilà, les vampires sont super mignons, super sexy, et les Prométhéens peuvent devenir humains. Et voilà. Mais je pense qu'au début, vraiment, la différence, c'est cette différence de quête. Et ce qui les rapproche, c'est cette altérité.
Oui, Gilles Ménégaldo.
Rebondis un petit peu sur. Je rebondis un peu sur ce qui vient d'être dit, donc sur la question de la nomination. Dans le roman, effectivement, le Marie Chélès s'est posé la question. Donc il y a tout un lexique pour identifier le monstre qui n'a pas d'identité, effectivement, pas de carte d'identité, comme le dit Jean-Jacques Le Cercle. C'est intéressant. Mais on l'appelle aussi bien it, hein, c'est-à-dire justement qui n'est pas défini comme humain. On l'appelle fiend, c'est-à-dire le démon, l'idée d'associer au diabolique. Il est associé également, donc bien sûr, à creature et monster. Donc il y a au moins quatre appellations différentes qui sont intéressantes. Je voudrais juste revenir sur une chose qui me paraît quand même importante. Alors la confusion, bien sûr, créature, créateur. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut parler d'un couple. C'est le mythe, c'est un couple. Hein, et la question du double est fondamentale dans le roman en particulier. Voilà. Et puis dernière chose, juste parce que ça a été évoqué aussi, je pense que c'est important d'évoquer la question du langage, parce que le monstre est un monstre éloquent dans le cas du roman. Et toute la question des adaptations cinématographiques et théâtrales. Pardon ? Ah oui, d'accord. Pardon, excuse-moi. Voilà, donc la question du langage me paraît fondamentale.
Merci beaucoup. On va vous laisser parce que nous avons une autre table ronde qui nous attend. Voilà, merci de votre présence.